Oui, ce matin, je vais partager avec vous un passage de l'évangile de Jean, en vous invitant non pas, comme Laurette tout à l'heure, à des mets succulents dans les années 55 et de l'eau, il y aura même du vin en plus. C'est dans Jean 2, vous connaissez certainement ce passage pour beaucoup, qui est intitulé « Les noces de Cana ». Jean 2, versets 1 à 12. Trois jours après, ça commence ainsi, le chapitre 1 se passe au bord du Jourdain avec les baptêmes de Jean-Baptiste et entre autres le baptême de Jésus aussi. Et trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ?» Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Cet épisode de la vie de Jésus n'est raconté que par Jean. Pourquoi que par lui, quelques mois ce sujet, il se situe, nous l'avons vu, au tout début du ministère de Jésus. C'était le commencement des miracles que fit Jésus, dit le verset 11. Il y a là aussi présents les premiers disciples rencontrés près du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Et nous savons que parmi ses premiers disciples, près du Jourdain, il y avait Jean, justement. La mère de Jésus, Marie, est présente. Jésus est encore assez lié à la structure familiale, à la cellule familiale, nous le voyons à la fin, puisqu'il était là avec sa mère, avec ses frères, et il repart avec eux. Et nous savons qu'après la mort de Jésus, Jean a pris Marie chez lui. Et je me dis qu'ils ont dû repasser ces choses ensemble dans leur cœur, certainement, ces premiers événements qui avaient eu lieu. Et c'est peut-être pour ça que Jean a été plus frappé que d'autres par ce récit et nous l'a rapporté. C'est une histoire vécue, ce n'est pas une parabole. Il existe plusieurs paraboles de noces ou de festins dans les évangiles, mais celle-là, c'est une histoire vécue. Nous savons que Jésus participe volontiers à des festins. Ce qui choque en général les religieux du moment, au point qu'ils l'accusent d'être un mangeur et un buveur de vin, et ce n'est pas quelque chose de formidable pour eux, parce que ça veut dire qu'il est amateur de fêtes pas très bonnes fêtes et qu'il est en mauvaise compagnie. Il vaut la peine de rappeler cette réalité que nous connaissons, mais nous l'oublions trop souvent, je crois, tellement nous sommes imprégnés de l'idée selon laquelle la spiritualité est quelque chose de sérieux, de rigoureux, ça nécessite un certain ascétisme. Ici, Jésus est invité à une noce et il n'intervient pas pour rappeler aux convives la bienséance, la retenue, la modération et même pas la sobriété. Puisqu'il fournit du vin en quantité à des gens qui ont déjà bien bu, puisqu'ils ont tout terminé ce qui était prévu. C'est un acte bien réel, ce n'est pas une parabole. Et quand Nous savons qu'il est Dieu, il y a de quoi nous interroger sur l'idée que nous nous faisons de Dieu, souvent un Dieu extrêmement tatillon, pointilleux, qui ne sourit jamais, qui est un petit peu dur parfois. Vin et festin sont les constantes, sont des constantes dans la vie et dans les paroles de Jésus. Dans Matthieu 26, au verset 29, il y a ses disciples, « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans Luc 22, verset 29, « Je dispose du royaume pour vous afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » Ce sont les paroles de Jésus. Néanmoins, Jésus met en garde contre les festins, les réjouissances où Dieu n'a pas sa place, n'a pas la place qui lui est due. Dans Matthieu 24, verset 38, il dit, encore lui, « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et ils ne se doutèrent de rien. » Il dit « mangeaient et ils buvaient, et ils avaient totalement oublié le Seigneur, insouciance du sens de la vie. Le problème n'est pas dans la fête, mais dans l'esprit qui préside, dans la place que nous accordons au Seigneur lors de nos fêtes, et sur quoi cette fête est centrée. » Ces remarques préliminaires étant dites, nous en venons au centre de ce récit, et il y a d'abord le dialogue entre Marie et Jésus, dialogue qui paraît dur, et j'aimerais d'abord reprendre ces quelques versets, versets 3 à 5, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ce sont des versets assez étranges dans la forme, assez brutaux, on a l'impression, dans l'expression. Marie sait que son fils a un destin et un pouvoir exceptionnel. Voilà 30 ans qu'elle peut repasser en son cœur ce qu'elle a entendu de lui à sa naissance. Le baptême de Jésus est récent, et là, il y a eu cette parole venue du ciel, « Il est mon fils bien-aimé. » Et cela, Marie l'a forcément entendu par déjà les Galiléens présents, André et Jean, en tout cas, qui étaient présents lors de ce baptême. Et face au problème présent, le manque de vin, donc en plein milieu de la noce, Marie se tourne naturellement vers ce fils, vers Jésus, dont elle sait déjà bien des choses, elle sait d'où il vient, elle sait qu'il est capable de remédier à beaucoup de problèmes, et certainement à ce problème-là. Il a certainement la solution. Mais Jésus doit lui rappeler une chose. Elle doit apprendre une chose. Si elle ne peut ignorer que Jésus a été conçu en elle par Dieu lui-même, si elle sait donc qu'il est fils de Dieu, elle n'arrive pas bien à couper le cordon encore. C'est trop tôt. Elle n'est pas encore prête. Dans cet épisode, visiblement, c'est son fils. Il y a un problème. Marie se tourne vers Jésus et lui dit « Tu devrais faire quelque chose. » C'est elle qui prend les choses en main. Quand Jésus s'attardait au temple à 12 ans, elle pouvait lui donner l'ordre de rentrer à la maison. Il n'avait que 12 ans. Il n'avait pas encore commencé son ministère. Et ici, il a 30 ans, et là encore la tentation de lui dire ce qu'il doit faire, tout en sachant qu'il est bien fils de Dieu. Or, l'obéissance première de Jésus, c'est à son Père qu'il la doit, à Dieu lui-même, et cela Marie doit l'apprendre. Une leçon un peu difficile pour elle, mais elle doit l'apprendre. Et il y a là, je crois, une leçon essentielle pour Marie et aussi pour nous. Même le Fils de Dieu, c'était le verset 5, Jésus lui dit, « Mon heure n'est pas encore venue. Ne me brusque pas, ne me force pas à faire quelque chose, si ce n'est pas l'heure du Père. Même le Fils de Dieu ne peut brusquer les choses. Décider de l'heure à laquelle Dieu jugera bon d'intervenir. Même le Fils obéit au Père. » C'est une première leçon qu'elle doit comprendre. Il est fils de Dieu, mais il obéit d'abord au Père. Et Marie est contrainte de s'en remettre alors à ce fils qui est d'abord fils de Dieu, avant d'être le sien. Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je ne sais pas ce qu'il vous dira, mais faites comme il vous dira. Le problème, elle lui a confié. Le temps de la réponse, la forme de cette réponse, n'appartient plus à Marie. Et je crois que là, c'est quelque chose que nous pouvons garder pour nous aussi. Le temps et la forme des réponses que nous attendons, de la réponse à mes besoins, ne m'appartient pas. Dieu sait, Jésus sait, et Dieu agira selon ce qui est bon. Nous devons reconnaître notre impuissance à décider, et en même temps, cette totale confiance. Faites comme il dit. J'ai confiance dans ce qu'il fera, dans ce qu'il vous dira. Quelques mots sur l'organisation de la noce. Deux personnes en sont responsables, d'après ce qui est rappelé ici, le marié et l'organisateur du repas. Le marié, lui, il a tout prévu. Il a prévu une chose fondamentale, non pas le vin, non pas le menu, mais une chose fondamentale, des jarres, contenant l'eau destinée aux ablutions rituelles des invités. Cela, c'est presque le centre. L'évangile de Marc, au chapitre 7, nous rappelle cette chose. Les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait des ablutions rituelles. Donc, avant de commencer ce repas de noces, l'essentiel, c'est les ablutions, se laver les mains, les ablutions avant, rituelles, pour se sanctifier, pour être pur. Et il y a là donc six jarres, nous est-il dit, au verset 6, ce qui représente, d'après les mesures qui nous sont données là, des centaines et des centaines de litres d'eau. Il doit y avoir beaucoup d'invités pour une telle quantité, six jarres chacune contenant plus de 100 litres. Ça fait une quantité énorme. C'était prévu largement. Il y a le repas prévu par le marié, c'est lui qui a prévu, avec aliments, avec boissons. Et puis, dernière chose que le mari a prévu, c'est un organisateur chargé du service, que tout se passe bien, en général un ami. Ce n'est pas le traiteur, il n'est pas chargé de préparer le repas, mais chargé de s'occuper que tout se passe bien. Tout a été soigneusement planifié. Une seule chose, mal évaluée, la quantité de vin. Et du coup, c'est l'ensemble du festin qui est mis à mal. Pratiquement une catastrophe avec tous ces invités. Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils manquent de la boisson? Et puis l'autre qui s'occupe du repas, c'est justement l'organisateur. Normalement quelqu'un de rigoureux, qui aime l'ordre, qui aime la discipline. Et cela ne l'a pas empêché de passer à côté d'une erreur de calcul du marié. Pas assez de vin. Il n'a pas été suffisamment attentif. Il était très attentif à ce que les ablutions se fassent bien. Ça, c'était important. Toutes les jarres étaient prêtes. Mais là, il a manqué quelque chose. Jésus est intervenu. Nous le savons. Je ne viendrai pas là-dessus. Je viendrai à la suite. Jésus intervient. Cette eau changée en vin. Les réactions. Et les réactions sont surprenantes. Elles sont pleines d'enseignements, me semble-t-il. La première réaction que nous voyons, c'est celle de l'organisateur du repas, qui se retrouve avec ce vin dont il ne sait rien. Verset 10, il appela l'époux et lui dit « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, pas le moins bon. » Il ne comprend plus. Il ne sait rien de l'intervention de Jésus. Les serviteurs lui emmenaient. Il ne sait pas d'où ça vient. Il goûte ce vin, il constate la qualité. On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent. Ah oh ben formidable ça. Il n'est pas content du tout. Il manquait de vin. Le vin arrive en abondance et du bon. Et il est fâché. Il ne voit qu'une chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? Ce vin-là, il ne va pas être servi maintenant. Ce bon vin, il fait désordre, ça bouscule toutes les traditions. Normalement, on le sert en premier du vin comme ça. C'est dérangeant, c'est même pas admissible. Et il s'en prend aux mariés qui ne veillent pas suffisamment sur sa maison, sur le respect des traditions, fâché comme tout l'organisateur, que des reproches. Au lieu de s'interroger déjà sur sa propre insuffisance, qu'il n'a pas bien vérifiée, la quantité, au lieu de s'interroger même sur l'origine de ce vin, mais d'où il vient ce vin? On ne l'avait pas vu. Au lieu de se réjouir qu'il y ait du vin en abondance et du bon, non, il est fâché. Il est comme nous. Il est comme nous. L'art de poser les mauvaises questions. Pourquoi la vie ne se déroule-t-elle pas comme je l'ai prévu, comme je l'ai décidé? Pourquoi les choses ne se déroulent-elles pas comme je l'aimerais? Ne se font-elles pas comme je trouve que ça serait bien? L'art aussi de rendre les autres responsables de ses propres défaillances. Mais qu'est-ce que t'as fichu au marié? C'est la faute du marié, c'est la faute des autres, on sait très bien, si ça va pas, c'est la faute de la famille, c'est la faute de l'Église. L'art de s'enfermer dans ses récriminations, au lieu de se réjouir des dons reçus. Où est le soulagement de cet homme quand il constate le problème résolu? Nulle part. Où est la reconnaissance pour cet excellent vin, meilleur même que ce qu'il pouvait souhaiter? Il n'y en a pas. Il y a cet aveuglement qui empêche d'interroger aussi ceux qui savent. Au verset 9, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Et tout de suite, il commence à récriminer. Il ne demande même pas d'où il vient. Aveuglement qui le fait passer à côté du principal, qui le fait passer à côté de la réjouissance, de la reconnaissance, de la louange à Dieu. Aveuglement qui empêche d'entrer dans la joie du Seigneur. C'est incompréhensible, mais comme je disais, c'est malheureusement l'attitude de tant et de tant de personnes, de nous-mêmes. Rien ne se passe comme on aimerait dans la vie. C'est bien connu. Je ne connais pas tellement de gens qui sont contents de la façon dont ça se passe. Et cela nous rend aveugles aux immenses bénédictions reçues. Toujours insatisfaits, inquiets, râleurs, concentrés sur quantité de choses, mais passant à côté de l'essentiel. Ça, c'est l'organisateur du repas. Réaction des serviteurs maintenant. Ceux qui ont assisté au miracle proprement dit, qui ont, parce que Jésus s'est adressé à eux, et Jésus leur dit « remplissez d'eau ces jarres », les jarres de purification des mains, et ils remplirent juste d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en l'organisateur du repas. » Et ils en portèrent à l'organisateur du repas. Eux, les serviteurs, ce sont les oubliés de la fête, les personnages de l'ombre, les plus actifs, mais les moins visibles. Ils sont chargés de porter les choses, d'amener, d'enlever. Et là, Jésus leur colle en plus un travail supplémentaire. Ils ont dû s'en poser des questions. Les ablutions ont été faites au début du repas. Donc il y a de l'eau qui a dû s'écouler, les jarres se sont en partie vidées. Mais pourquoi remplir d'eau ces jarres, comme le demande Jésus, alors que les ablutions ont été faites? Ça n'a pas de sens. Et puis ce sont des centaines de litres à remplir. Pourquoi cette fatigue inutile, alors qu'on est en plein service du repas? Le repas est en cours, la priorité c'est le service, c'est l'urgence. Parce qu'il y a des choses à faire. On n'a pas de temps à perdre avec cette histoire de remplir des jarres d'eau alors que c'est fini. Les ablutions ont eu lieu. Ils ont dû s'en poser des questions. C'est de vin qu'on manque, c'est pas d'eau. On te dit qu'on manque de vin, tu nous dis allez chercher de l'eau. Jésus sait-il vraiment ce qu'il fait? A-t-il vraiment compris le problème? Vous savez bien que Jésus comprend rarement nos problèmes. Et pourquoi maintenant? On a rempli ces jarres avec de l'eau. Nous l'avons fait. Pourquoi nous demandes-tu de repuiser à nouveau dans cette eau, dans ces jarres? Nous savons bien que c'est de l'eau, on vient de l'apporter. Ça n'a pas de sens tout cela. Et pourtant, moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est qu'ils obéissent. Ils obéissent malgré toutes les objections qu'ils pourraient avoir, malgré leur fatigue, malgré l'incompréhension. Et du coup, ce sont eux, et eux seuls, qui vivront le miracle extraordinaire, parce qu'ils l'auront vu d'un bout à l'autre. Ils ont accompli ce que Jésus avait dit sans comprendre. Ils ont porté à l'organisateur du repas en disant « on va lui porter, on verra bien ». Et ils découvrent que l'organisateur leur dit « mais c'est quoi ce vin ?» Eux seuls vivront l'étonnement, l'admiration. Seuls ces serviteurs de l'ombre, obéissant au-delà de tous les bons arguments, seront témoins de la puissance de Jésus. Mais ils resteront ignorés. Personne ne prend la peine de leur demander l'origine du vin qu'ils servent, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, ni l'organisateur du repas, ni le marié. Personne ne s'y intéresse. L'organisateur ne pense même pas les questionner. Lui, il a les connaissances, il a le savoir-faire. Et puis, il est tellement supérieur à ses simples serviteurs qu'il n'a pas à leur demander ce qu'ils en pensent, ce qui est arrivé. Les invités, et le marié d'ailleurs, continuent la fête. Ils se réjouiront jusqu'à l'ivresse. Mais combien d'entre eux chercheront à savoir d'où vient cet excellent vin dont ils sont bénéficiaires? Ils se réjouiront comme au temps de Noé, uniquement centrés sur cet instant de plaisir. Est-ce que c'est une histoire ancienne? Nous avons déjà fait allusion, je crois que nous sommes pas mal concernés par cette histoire. Au-delà de cette histoire ancienne déroulée dans un village perdu de Galilée, les enseignements restent totalement actuels et pertinents pour chacun de nous. Le marié et l'organisateur du repas rappellent nos prétentions à gérer nos vies et nos limites à tout programmer. Vouloir gérer nos vies, alors que nous faisons tellement facilement des erreurs, que nous oublions des choses, que tout ne se programme pas comme nous aimerions, comme nous l'avons prévu. Mais nous sommes toujours convaincus que nous savons faire, que nous savons gérer notre vie. Combien de temps passons-nous à calculer nos projets d'avenir? Nous réfléchissons à plein de choses que nous pourrions faire. Et en regard de ce temps, combien de temps accordons-nous à confier cet avenir au Seigneur avant de formuler nos projets, avant de les formuler? Combien j'ai déjà rencontré de personnes qui disent « Ah, j'ai prié le Seigneur, j'ai reçu la certitude que c'est sa volonté, on a déjà tout calculé avant, tout prévu, tout planifié, de toute manière ça se passera comme ça, et après on prie, ah oui, le Seigneur m'a convaincu que c'est bon. » Avant de formuler nos projets, que le Seigneur nous inspire pour les formuler. Et quand le Seigneur répond de façon inattendue à nos questions, que voyons-nous? Ce que ça dérange nos habitudes. Voir un programme déjà ficelé qui est bouleversé. Nous n'aimons pas cette réponse-là, une réponse qui dérange. Ou voyons-nous alors sa réponse extraordinaire à notre vrai besoin? Nous sommes plus enclins à voir ce que cela dérange dans nos vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, savons-nous reconnaître nos limites à gérer seuls notre vie? Savons-nous rechercher la présence du Seigneur dans tous nos besoins? Savons-nous regarder à l'essentiel plutôt qu'au superficiel de nos certitudes? Reconnaissons-nous réellement, pratiquement, le rôle clé de Jésus dans nos impasses face à l'impossible? Ou nous lamentons-nous, convaincus qu'il n'y a rien à faire, réagissant comme si Dieu ne pouvait pas grand-chose non plus? Résignés d'avance à une vie terne, chaotique, sans perspective, sans espérance, convaincus que l'excellent vin de Jésus, finalement, c'est pour les prédications. Ça fait une prédication. Ou c'est aussi pour l'école du dimanche, ça fait de belles leçons d'école du dimanche. Mais ce n'est pas pour la vie réelle, hein, ici et aujourd'hui. Les noces de Cana, ça fait un beau sujet, une belle discussion. Les enfants sont contents quand on en a parlé. Mais est-ce que ça a vraiment un rapport avec notre vie réelle, ici et aujourd'hui? Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus répond encore à nos vrais besoins? Ou sommes-nous convaincus que Jésus est compatissant, oui, au-delà de nos besoins, qu'il accomplit l'impossible, remplissant les jarres au-delà du nécessaire, et même pire, au-delà du raisonnable. Ce n'était pas raisonnable ce qu'il a fait, Jésus. Plus de vin qu'il en fallait. Est-ce que nous sommes convaincus que l'action de Dieu en notre faveur dépasse le raisonnable, que Dieu n'est pas raisonnable avec nous, qu'il veut aller au-delà, nous donner beaucoup plus. Les serviteurs, encore un mot sur les serviteurs, qui remplissent la tâche demandée, une tâche peu exaltante, parce qu'ils n'en comprennent pas l'étendue, qu'ils n'en comprennent pas l'impact, qu'ils n'en comprennent pas le sens final, et je crois que ça nous concerne souvent cela. Tellement de choses que nous faisons sans avoir la perspective d'ensemble, mais pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi? Mais malgré leur faible compréhension du plan de Dieu, malgré leur rôle peu en vue, ils acceptent la parole de Jésus. Ils discernent en Jésus le Seigneur qui, à travers leur obéissance, les associe à son œuvre. Et à Cana, tous ont été au bénéfice de ces serviteurs obéissants. Mais qui a su le reconnaître? L'Église est lieu de communion, lieu de réjouissance, lieu de bénédiction, grâce à la présence de tels serviteurs attachés au service de Jésus. Est-ce que nous savons le reconnaître? Savons-nous aussi désirer ce rôle de serviteur disponible plutôt que celui d'invité passif ou de contrôleur mécontent dans l'Église quand les habitudes sont perturbées? Oh, ça ne va pas, ça n'a pas été. Savons-nous être de ceux qui servent l'Église du Seigneur pour que tous se réjouissent au risque d'être ignorés? Ce sont ces serviteurs inutiles, vous le savez, que Jésus a toujours loués. Ceux qui puisent de l'eau alors que c'est du vin qui manque, qui puisent quand même parce que le Seigneur l'a demandé et que lui seul sait ce qu'il fera de ce service inutile. Eh bien, je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi pour ce que tu nous as laissé comme exemple lors de ta venue sur cette terre. Seigneur, nous savons que ce n'est pas simplement un exemple à suivre que tu nous as donné, mais surtout un moyen de faire connaissance avec toi en plus profond. Que tu n'es pas un Dieu lointain, que tu es quelqu'un de proche, qui est venu parmi nous, en Jésus. Et nous savons tout ce que tu accomplis à travers lui. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de comprendre que nous sommes des serviteurs, mais des serviteurs que tu aimes, et que tu aimerais tellement voir attachés à ton service. Tellement prêt à marcher avec toi, à accomplir ta volonté, à croire à ta parole, à faire des pas de foi avec toi, pour que ton nom soit glorifié, et pour que ta volonté s'accomplisse aussi pour la bénédiction de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, donne-nous cette vision des choses, non pas cette supériorité de ceux qui savent tout, de ceux qui savent calculer, et qui ne calcule pas toujours bien, mais cette confiance absolue que si toi tu dis, tu feras, et que tu as dit des choses pour nos vies, alors que tu les feras. Seigneur, combien cela est une certitude magnifique, ne permet pas que nous repartions en croyant que nous ne sommes pas comme d'autres, que tu fais moins attention à nous. Tu n'as pas de préféré. Tu nous aimes chacun dans ce que nous sommes. Et tu veux accomplir ton œuvre avec chacun de nous, selon ce que nous sommes, comme tu le veux, selon ce que tu as décidé. Seigneur, que ta volonté puisse se faire dans les uns et dans les autres, parmi nous, ce matin et dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.
Amen.